Il y avait des petites alertes avant, mais en fait, j'en prenais pas compte. Et forcément...
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Le sport peut parfois ressembler à une lutte constante, incessante. Essayer d'arriver au plus haut niveau, se blesser, puis tout faire pour revenir au top sans être sûr d'y parvenir, avoir des doutes, se sentir fort à nouveau, etc. Cette lutte, ça n'a pas vraiment été celle de mon invitée du jour. La lutte, c'est tout simplement le sport qu'elle pratique depuis son enfance. Kumba Larocque a 24 ans et pratique la lutte depuis ses 9 ans avec une détermination totalement hallucinante. Elle marche sur l'eau toutes ses premières années de compétition, est surclassée dans toutes les catégories et gagne absolument tout dans la catégorie junior jusqu'à être sacrée championne du monde en 2016 puis en 2018. Malheureusement, cet état de grâce va brutalement s'arrêter juste après son deuxième sacre mondial suite à une grave blessure au genou. Et là, la lutte commence. Kumba, c'est l'histoire d'un talent précoce qui s'est épuisé, sans vraiment s'en rendre compte, par volonté de trop bien faire et d'en vouloir toujours plus. Mais c'est aussi l'histoire d'une reconstruction longue et semée d'obstacles pour arriver à s'écouter et à pratiquer son sport plus sereinement. C'est aussi une femme de sa génération, positive et authentique, qui n'en a absolument rien à faire du regard que peuvent poser les autres sur son sport. Kumba vit sa vie sans complexe et surtout, elle veut vous montrer que l'or, à Paris 2024, ce sera bien pour elle. Salut Kumba!
Salut!
Comment tu vas?
Ça va très bien et toi?
Eh ben écoute, ça va super. Je suis contente d'être à l'INSEP et qu'on puisse enregistrer ce podcast.
Ah, je suis très contente aussi.
Il fait 2000 degrés dans la salle où on est en train d'enregistrer.
C'est vrai qu'il fait hyper chaud, mais bon, on s'en sort.
Si vous ne nous entendez plus au bout d'un moment, c'est que quelqu'un fait un malaise.
On est déshydratés.
Mais tout va bien. Kumba, alors pour rentrer dans le vif du sujet, je suis déjà hyper contente qu'on puisse parler aujourd'hui parce que tu pratiques un sport dont on n'a jamais parlé pour le moment sur le podcast, qui est la lutte, qui est un très beau sport, qui est un sport plutôt méconnu, malheureusement.
Merci beaucoup à toi, ça me fait super plaisir de pouvoir mettre mon sport en lumière et de pouvoir en parler et faire découvrir aux gens.
Du coup, Kumba, est-ce qu'on peut revenir rapidement un petit peu à la genèse, à tes débuts dans la lutte, pour comprendre pourquoi la lutte ? Parce que c'est vrai que ça peut paraître surprenant comme choix. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce sport-là ?
Alors la lutte, c'est vrai que je suis tombée dessus un peu par hasard en fait. Je connaissais pas du tout non plus, donc c'est pour ça que j'en veux pas aux personnes qui connaissent pas forcément. Et à l'âge de 8-9 ans, je suis partie à la lutte par hasard parce que mes deux grands frères faisaient déjà de la lutte et on est partis les récupérer à l'entraînement avec ma mère. J'ai vu un peu ce qu'ils faisaient, mais en réalité j'avais vu plus l'échauffement en fait, donc j'y connaissais toujours pas grand chose.
D'accord.
Mais j'ai voulu essayer et directement ça m'a plu, j'ai accroché. Parce que c'est vrai que comme de base, j'avais vraiment mes deux grands frères avec qui je passais la majorité de mon temps, j'étais plutôt bagarreuse et ça m'a vite mis dans le bain, quoi.
Tes grands frères, comment ils s'étaient mis à la lutte ? C'est quelque chose, c'est familial ? Il y avait déjà un historique avec ce sport-là ?
En fait, on est une famille assez nombreuse. Mm-hmm. Et du coup, nous, on était toute la semaine avec ma mère à la maison, mais elle n'avait pas forcément le temps ou le moyen de nous emmener, d'emmener mes frères au sport, etc. Et il y a une personne que je considère vraiment comme mon grand-père et qui m'est très chère, Daniel Descamps, qui venait toujours chercher mes deux grands frères à la maison, qui les emmenait à la lutte, qui les redéposait. Et c'était vraiment en fait la facilité pour ma mère. Et lui, c'est le sport qu'il connaissait. Et
d'accord.
Il était vraiment passionné de ce sport. Donc voilà comment on y est arrivé.
Ça a été presque un peu un hasard en fait.
Oui.
C'est les connaissances
c'est
qui
ça,
ont fait que vous êtes
arrivé
dans ce sport-là.
Pour ma part, en tout cas, ça a été clairement un hasard, mais c'est vrai qu'il nous a aidé vraiment au cours de toute notre vie et je suis très, très, très reconnaissante parce que je ne serais jamais là sans lui.
Comment ça s'est passé, tes débuts dans la lutte ? T'avais quel âge déjà ?
J'avais 9 ans quand j'ai commencé la lutte à Sainte-Geneviève-des-Bois. donc dans le 91. Et au début, c'était franchement, c'était super bien parce que j'aimais bien la bagarre, etc. Mais c'est vrai que c'était assez particulier parce que j'étais la seule fille.
Ouais.
J'étais la seule fille de mon club, donc je m'entraînais avec beaucoup de garçons. Et comme c'est un sport quand même de contact, etc., je pense que c'est bien que j'ai commencé assez jeune parce que je ne me rendais pas forcément compte de la proximité, ouais, etc. Ce qui fait que j'ai toujours eu une facilité, en fait, à faire de la lutte. Mm-hmm. Mais j'ai vu des personnes commencer un peu plus tard, etc., qui ont eu du mal avec cet aspect de contact, de préhension, etc., en étant des femmes,
ouais,
et devoir s'entraîner avec des garçons.
Donc, le fait... oui, parce que quand t'as 9 ans, tu te rends pas compte... c'est un jeu, j'imagine, plus qu'autre,
oui,
chose.
Voilà, on faisait beaucoup de jeux de lutte. C'était pas en fait hyper strict, c'était des jeux de lutte pour vraiment découvrir, pour connaître, apprendre à chuter, etc. Et on n'en a rien à faire d'être en face d'un garçon ou en face d'une fille, c'est vraiment, on s'amuse, quoi.
Mmh. Donc dès le début, t'as été plongée dans cet univers avec que des garçons.
C'est ça.
ça t'a pas justement un peu, pas rebuté, mais en tout cas bloqué, te dire, ok, moi, je suis la seule fille, c'est bizarre et tout.
Bah, franchement, pas du tout. Après, peut-être aussi que c'est parce qu'il y avait mes deux grands frères qui étaient là autour de moi. Et vraiment, ça s'est fait hyper naturellement et je me suis même jamais posé la question, en fait.
Ouais.
C'est en grandissant que je me suis rendu compte que, ah non, en fait...
C'est bizarre, c'est pas normal.
Oui, c'est ça. Mais même en compète, il n'y avait pas forcément énormément de filles. Donc, des fois, je luttais avec les garçons en compète. Chez les jeunes, tu peux lutter entre filles et garçons. Et donc, ça s'est fait vraiment tout naturellement et c'était bien, en fait, c'était agréable, quoi.
Ouais, toi, tu t'éclatais, quoi, j'imagine.
Oui, c'est ça, je m'amusais, je venais, je m'entraînais un peu, je me dépensais, puis je rentrais chez moi sans me poser de questions sur « Ah, mince, j'ai lutté avec un garçon ou autre, quoi. »
Ouais. Et comment ça s'est passé au début? Parce que tu disais, toi, t'aimais la bagarre. Au final, la lutte, c'est pas vraiment de la bagarre. Oui. Enfin, on peut grossièrement dire ça, mais non, quand même.
Non.
comment t'as appréhendé cette discipline? Qu'est-ce qui t'a plu? Quand tu t'es rendu compte que finalement, ce n'était pas de la bagarre.
En fait, ce qui m'a plu, c'est que c'est vrai. Il y a vraiment un... Au début, c'était des jeux, en fait. Donc, forcément, je m'amuse, on se retourne, etc. Bah, ça m'amuse. Après, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que c'était hyper complet et que vraiment, on avait besoin d'énormément de qualités physiques, mais aussi techniques. Il y avait aussi l'aspect mental qui jouait beaucoup. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais été trop dans cette notion de... sport sans, comment dire, de faire de la lutte, mais sans avoir des objectifs, en fait. Directement, j'ai voulu, en fait...
Performer. Enfin,
voilà,
t'as eu envie
j'ai directement voulu performer. Et donc, j'avais toujours, en fait, cet objectif de me challenger. Et comme je luttais avec les garçons et que je battais des garçons, en fait, ça, au final, ça met quand même un peu des étoiles dans les yeux. Et donc, c'était top pour moi. Et c'est ce qui a fait que j'ai beaucoup aimé la lutte. Chaque match est différent. À chaque fois, on a un adversaire différent. Donc, on doit mettre d'autres stratégies en place, etc. Franchement, j'ai vraiment accroché.
T'as toujours eu cet esprit de compétition dès toute petite?
Franchement, oui, toujours. Toujours. Mais même en dehors de la lutte, en fait. C'était, je sais pas, on joue à un jeu entre nous, un jeu de société. Si je perds contre mes frères, j'en peux plus, je suis trop énervée.
T'es mauvaise perdante.
Ouais, c'est ça. Donc, j'ai toujours eu cet esprit-là. Et après, c'est vrai que j'ai dû arrêter, en fait, la lutte pendant une année parce qu'on a déménagé. Et du coup, bah, Daniel pouvait plus venir nous chercher, etc.
D'accord.
Et donc, bah, 11 ans, il m'a appelé pour me dire, voilà, si tu veux continuer la lutte, il faudrait que tu... Il y a des détections, en fait, à Foromeu.
Mm-hmm.
Donc, dès ma 6e, je suis partie là-bas faire mes tests, en fait, pour essayer de rentrer là-bas. Ça faisait un an que je n'avais pas fait de lutte. Je ne savais pas trop voilà, comment ça allait se passer. En plus, j'étais la plus jeune là-bas. Et en fait, je suis arrivée là-bas à 12 ans et je me suis vite rendu compte que je suis à plus de 8 heures de chez moi.
Ouais.
Ma mère, en fait, se sacrifie quand même pour pouvoir payer le pôle, etc. Mmh. Donc, dès mes 12 ans, je savais que si je vais là-bas, il y a des sacrifices qui sont faits. Donc, c'est pour un objectif, en fait. Et du coup, j'ai toujours été dans cet aspect de compétition, de gagne et de challenge.
Ça t'a mis dès ton plus jeune âge, parce que quand tu pars à 12 ans de chez toi, c'est quand même ultra jeune.
Et en plus, c'était très loin.
Et en plus, c'est très loin, effectivement.
Oui.
Ça t'a mis en tête que, bah, vu que c'était un sacrifice pour ta mère, que tu partais loin, que c'était aussi un coût financier, qu'il fallait que tu réussisses.
Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai eu la chance, parce que ma mère aussi, elle m'a dit en fait, que si elle m'a envoyée là-bas, entre guillemets, c'est parce que vraiment, elle savait que j'étais assez mature pour y aller,
ouais,
même en étant jeune, etc. Et donc, j'ai eu la chance d'être hyper lucide sur cet aspect-là et de me dire, je sais en fait dans quoi je m'engage. Et à quel point ça peut être dur aussi de l'autre côté, bah pour ma famille, même pour moi, d'être séparée de mes proches, de les voir peut-être tous les un mois et demi, etc. Et donc, j'y suis allée directement avec des objectifs en tête, en fait.
D'accord. C'est pas trop difficile, quand t'as 12 ans, de se mettre une pression comme ça dès le début ?
Bah, en fait, je le subissais vraiment pas comme une pression. C'était juste comme si j'avais un plan en tête, en fait, et que c'était très clair, quoi. Mais à côté de ça, bah, je m'amusais aussi énormément à l'internat. Enfin, ça m'a beaucoup forgé, ça m'a fait mûrir et tout. On était 4 par chambre. J'ai tellement de souvenirs là-bas et j'avais mon école. J'ai vécu, en fait, une grande partie de mon adolescence là-bas. Et donc, je me construisais, en fait, et je l'ai pas pris comme une pression où tous les jours je me réveille et je me dis, ah non, il faut à tout prix que j'y arrive ou quoi. Mais je savais que, voilà, en étant venu ici, je viens pour telle raison. Et la raison, c'était performer dans le haut niveau.
Tu avais déjà des objectifs bien particuliers en tête ?
Oui, en fait, je suis arrivée en étant Benjamin. Et donc, dès le plus jeune âge, je me faisais surclasser. Donc, en Benjamin, okay. Je me faisais surclasser en minime pour les France. Et en minime, je me faisais surclasser en cadette, etc. Et donc, ma première année là-bas, j'ai fait les championnats de France minime. J'ai fait un podium aux championnats de France. Et directement, quand j'étais en minime, en fait, moi-même, je voulais faire les championnats d'Europe cadette. Donc, je me suis...
c'était toujours ça,
plus.
En fait.
Voilà, c'était toujours du plus. Et donc, j'ai tout fait pour être sélectionnée aux championnats d'Europe cadette, même en étant minime.
OK.
Et donc voilà, j'ai fait les Europes, ça s'est pas forcément hyper bien passé, mais moi je me disais que j'ai fait mes premiers Europes. Donc l'année d'après, j'étais cadette et je voulais à tout prix faire une médaille aux Europes, vu que l'année d'avant, je les avais déjà fait en étant plus jeune. Et en fait, c'était toujours comme ça et je grappillais petit à petit. Et l'objectif ultime, ça a toujours été d'être championne olympique, mais je savais qu'il y avait beaucoup de paliers avant.
Après, tu dis effectivement, toi dès le début, tu étais en Benjamin, on te surclassait déjà en minime, on te surclassait en cadette. Pourquoi ? Parce que tu avais un niveau trop élevé hein ? Entre guillemets, ou parce que tu n'avais pas de concurrence en face ?
En fait, quand je suis arrivée à Foromeux, du coup, moi, j'étais pas en pôle, j'étais en section sportive parce que justement, j'étais la plus jeune.
D'accord.
Et donc, je suis arrivée en pôle en étant la plus jeune, mais toutes les filles faisaient les championnats de France minimes, en fait, ou cadettes ou autres. Et moi, directement, j'ai voulu faire, mais ça s'est fait tout naturellement, j'ai voulu faire les championnats de France minimes, donc je les ai fait. Et puis, comme ça s'est bien passé, ensuite, j'ai enchaîné. Et dans l'objectif de faire mes perfs comme voilà, quoi.
C'était une demande de ta part, en fait. C'est toi qui voulais faire...
Ça s'est fait hyper naturellement. On m'a dit, voilà, est-ce que tu veux te surclasser ? Oui, je veux bien. Et puis, j'ai fait les papiers, et voilà. Franchement, c'était hyper naturel.
En toute naïveté.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Sauf que tu t'es rendu compte aussi que tu performais. Mm. T'as performé déjà hyper jeune.
Oui. En fait, je pense que ça a été une chance, du coup, d'arriver si jeune. Parce que, par exemple, on a Julie en équipe de France en 50 kilos... quand je suis arrivée là-bas, j'avais 12 ans, elle en avait 16, elle avait déjà fait quelques résultats chez les cadettes, etc. Et moi, c'était ma partenaire. Donc forcément, j'ai gagné tellement d'expérience en m'entraînant avec des personnes plus âgées. Bon, elle était aussi hyper jeune, mais ils avaient tous plus d'expérience que moi parce que déjà, j'étais la plus jeune et je venais d'arriver. Et il y avait aussi des garçons avec qui je pouvais lutter, donc ça me faisait encore gagner plus d'expérience. Et en fait, à chaque fois, je prenais hyper rapidement en expérience et je gagnais tellement que c'était hyper constructif pour moi d'avoir tout ce monde autour de moi.
T'as toujours été dans une euphorie ? T'as toujours été heureuse, contente ? Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Je sais que j'ai rencontré beaucoup de sportifs qui disaient qu'ils sont partis de Guadeloupe pour venir en France, pareil, 13 ans, qui me disaient « Waouh, ok, c'est pas facile, quoi. Tu te coupes de toute ta famille et tu te retrouves un peu seule pour justement un objectif qui est le sport, ton sport. » Comment ça s'est passé, toi ?
Moi, j'ai super bien vécu l'internat. J'ai super bien vécu Foromeux, etc. J'étais hyper bien entourée. Certes, c'était compliqué parce que on est 5 enfants. Donc, je quitte tous mes frères et sœurs avec qui j'étais tous les jours, même mes parents, etc., pour venir, pour partir à l'autre bout de la France. Mais c'est vrai que je l'ai hyper bien vécu et ça ne m'a pas pesé, en fait. C'est plus quand j'ai grandi et que j'avais plus de charges au niveau des compétitions, etc., que là, ça a commencé à être dur parce que je ressentais qu'il y avait beaucoup d'attentes et de la part des autres et de ma part aussi, en fait, parce que j'arrivais à faire plus et à gagner toujours plus, j'en voulais encore plus, en fait. Et du coup, c'était une spirale qui a fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte quand même, mais bien longtemps après, que c'était finalement dur quand même à porter.
Tu t'en as rendu compte à quel âge de ça ?
Je m'en suis rendu compte en... Je sais pas. Après, en fait, j'ai essayé de me qualifier sur les Jeux de Rio en 2016. Et du coup, j'étais junior, première année. Donc, c'était vraiment l'âge minimum pour essayer de se qualifier, en fait.
T'avais quoi, 15, 16 ans
16 J'avais ans? 17 ans.
Non, 17 ans, ouais. Okay.
J'avais 17 ans. Et donc, je pouvais pas faire les championnats du monde qui avaient eu l'année d'avant parce que j'étais trop jeune. Ouais. Donc, je suis allée vraiment sur les tournois de qualif. Et sur les deux tournois de qualification que j'ai fait troisième. Il fallait faire première ou deuxième.
D'accord.
Et en fait, je me rappelle très bien, ça m'avait marqué. J'étais la plus jeune de la compète et j'avais lutté contre la Polonaise la plus âgée, quoi. Elle devait avoir 36 ans et moi, j'avais 17 ans.
Il y avait 20 ans d'écart.
Voilà, et j'avais perdu de 1 point d'écart, etc. Et en fait, là, je me suis sentie quand même hyper déçue de ne pas me qualifier sur les Jeux. Et c'est là que je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, ça... là, ce n'était pas que du plus à ce moment-là. C'était vraiment un objectif qui était devenu important pour moi. Et l'année d'après, bah, il y avait les championnats du monde à Paris. Et pareil, on m'a mis en fait comme une des têtes d'affiche. J'ai réussi à faire ma médaille à Paris. Mais 2018, j'ai dû enchaîner énormément de compètes. Et je pense que déjà là, je m'en rendais compte à partir de 2016, 2017. Parce que quand je ne me suis pas qualifiée pour Rio, bah, j'ai quand même fait les championnats du monde junior à Mâcon. J'ai fait championne du monde junior, mais deux mois avant, bah, j'essayais de me qualifier. Puis un mois après, je passais mon bac. Donc, je sentais que ça commençait à s'accumuler. L'année d'après, pareil, parce que j'avais les championnats junior U23, mais je devais aussi faire les championnats du monde senior à Paris. Et en fait, quand j'ai commencé à allier les trois saisons, vu que j'étais encore junior, mais que j'étais aussi moins de 23 ans et que je faisais les compétitions seniors en me surclassant, ça faisait énormément de championnats à l'année, en fait. Ça faisait trois championnats d'Europe et trois championnats du monde. Et je voulais
Là où les gens, entre guillemets, normaux en font un.
Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, forcément aussi, si tu as... Par exemple, j'avais un championnat du monde en septembre, un en octobre, un en novembre. Donc, pour faire une préparation correcte, alors que tu as trois championnats du monde sur trois mois, c'est hyper compliqué. Et moi, je voulais pas être sélective parce que je voulais tout faire et j'étais trop contente à chaque fois de revenir avec des médailles. Donc, une fois que je suis partie au championnat du monde en 2018, j'ai fait deuxième. Je me suis blessée en finale, j'étais en train de gagner et je me suis fait mal au genou. Donc, je perds déjà ma finale des championnats du monde senior alors que c'était mon rêve, quoi. J'étais à deux doigts. Et notre dernier champion du monde, c'était Mélonin et en 2014. Et moi, je sais que j'étais à ça. Et en plus, j'étais même pas senior. Et en plus, je me blesse et je m'arrête pendant presque un an. Et je me suis rendu compte, en fait, de toute la charge que c'était à ce moment-là, je pense vraiment. Quand je me suis fait mal, sachant que normalement, j'avais un autre championnat du monde après, le mois d'après, du coup. Quand je me suis blessée, que j'ai dû me faire opérer, etc., j'ai direct su, en fait, c'était dû à quoi? C'était dû au fait que, bah voilà, je voulais toujours enchaîner les compétitions, etc.
Quoi.
Oui, mais je le vivais vraiment pas comme ça, en fait. Ouais. C'est ça le paradoxe, c'est que je le vivais vraiment comme tout le temps me challenger et j'en voulais plus. Si on me disait, bah non, tu fais pas les mondes seniors, bah j'allais pas être contente, quoi, parce que je voulais le faire. Mais oui, ça m'a usé, forcément, parce que tu peux pas. Avoir trois semaines pour préparer un championnat du monde, mais après, tu récupères une semaine et deux semaines après, tu en fais un autre. C'est hyper compliqué. Mais je pense que j'avais pas la lucidité, en fait, d'écouter bien mon corps et de voir correctement les alertes, etc. Et comme j'étais toujours dans l'euphorie, bah, ça passait jusqu'à ce que ça casse. Et c'est là que je me suis rendu compte, ouais, en 2018.
Et ça, c'est dû à quoi? Parce qu'effectivement, tu vois, on peut parler clairement de précocité, c'est-à-dire que tu as été très vite repéré, tu es rentré dans le circuit du sport professionnel et du sport de haut niveau assez rapidement, tu as été surclassé sur toutes les compétitions, tu faisais des médailles, en junior tu as quasiment tout gagné. Donc effectivement, je pense, tu disais que toi tu te mettais une grosse pression, et que t'avais, enfin pas une grosse pression, mais que tu avais envie en tout cas de toujours plus. J'imagine que les gens aussi autour de toi se disaient, bon bah, on a une pépite entre les mains, poussons-la. C'est ce mélange des deux vraiment qui, au bout d'un moment, a fait exploser tout ça, si je puis dire.
Oui, c'est ça. En fait, je pense que vraiment, il y avait des petites alertes avant, mais en fait, j'en prenais pas compte. J'en prenais pas compte. Et forcément, bah, autour de moi, oui, la fédération, ils voient qu'à chaque fois, je reviens avec une médaille ou ma famille, etc. Bah, tout le temps, on veut que j'en fasse plus, en fait. Et moi aussi, je voulais absolument en faire plus parce que bah, trois compétitions, même si c'est sur trois mois, bah, c'est trois chances de médaille. Et trois chances de médaille en championnat, c'est incroyable. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Et j'ai de l'avance. Et en junior, bah, je ne prends pas de points sur tout le championnat du monde. Donc, ça veut dire que... Et en fait, c'était toujours des déductions. Mais bah, j'avais quand même 19 ans et j'ai quand même un corps qui fatigue aussi. Mais je ne m'en rendais vraiment pas compte. Donc, on ne m'a pas poussée. Vraiment, on ne m'a pas poussée. Et c'était volontaire de ma part. Mais je sais que bah, sur la compétition, oui, on attend une médaille de moi, par exemple. Ouais. On attend que Kumba performe. Mais ça m'a jamais mis une pression particulière. Au contraire, pour moi, c'était on croit en moi, ça veut dire encore plus que je peux le faire. Après, voilà, quand on grandit, c'est un petit peu plus compliqué à gérer, forcément. On est plus conscient des choses. Et puis, si tu te fais opérer, bah, tu mets plus de temps aussi à récupérer. Et tu te rends compte que ton corps s'abîme. Et puis, il y a tout l'aspect aussi rééducation. Il y a tout ça qui a fait que j'ai pris plus de facteurs en compte, en fait.
Ouais. Ouais, t'étais... En fait, quand je t'écoute, j'ai l'impression que jusqu'à tes 17 ans et cette année où, effectivement, t'as fait 3 championnats en parallèle, t'étais un peu... En mode bulldozer, quoi.
Oui, c'est ça. Et en plus, j'arrivais à tout. Par exemple, j'avais pas de difficultés en cours. Ouais. Donc, j'arrivais quand même à gérer mes cours. Alors qu'à partir de la première, bah, j'allais plus trop à l'école, finalement. Mmh. Et donc, mon bac, je l'ai passé en septembre. Mais j'ai quand même eu mon bac du premier coup, bac ES. J'ai pas eu de difficultés à le passer. Ensuite, je suis venue ici en STAPS, option paramédicale. Et pareil, première année, je valide mon année de STAPS et je suis prise en école de kiné. Et en même temps, je passais mon permis, en même temps, je faisais mes compètes, mais je me rendais vraiment pas compte. Je me rendais pas compte. Et tout se passait hyper bien. Et je sais pas, j'avais peut-être à des petits moments des alertes parce que des fois, j'étais hyper fatiguée, etc. Mais tout le temps dans l'euphorie, donc je me rendais pas forcément compte du truc. Et donc moi-même, je me poussais toujours à faire plus, mais en fait, c'était trop bien pour moi.
Ouais,
et, c'est fou. Ouais, je sais même pas comment l'expliquer.
En fait, bah parce que très clairement, tu vois, on en parlait juste avant, mais c'était une grosse charge mentale que t'avais. Mmh. Le sport, le triple sport. t'as tes cours, parce qu'effectivement, on en a pas parlé, mais tu suivis un cursus scolaire aussi en parallèle. Mmh, mmh. Plus bah, ta vie de famille, aussi tout ce qui est en dehors. Effectivement, comme tu dis, passer son permis, enfin c'est bête, mmh, mmh. Mais c'est des choses qui mettent aussi de la pression, qui prennent du temps. Mmh, mmh. Donc t'étais dans un univers où t'étais constamment... T'avais tout le temps des choses, quoi.
Ouais, c'est ça. J'avais tout le temps des choses. Mais en fait, c'était aussi vachement structuré. Par exemple, tout bête, pour passer mon permis, je savais que j'avais une compétition. Je sais plus si c'était les championnats d'Europe ou du monde du 23. Moi, je voulais passer mon permis rapidement. Je savais que j'avais besoin de 20 heures de conduite. La semaine de prépa, la semaine avant, bah, je faisais 2 heures de conduite plus mes entraînements chaque jour, donc du lundi au vendredi. Et après, j'ai fait ma compète, je gagne mon titre. Et la semaine d'après, chaque jour encore, je fais 2 heures. Et donc, en 2 semaines, avec un championnat entre, et ben, j'ai passé mon permis, en fait. Et en fait, j'arrivais à tout structurer et tout fonctionner, en fait. Et donc, je ne me rendais pas forcément compte que, bah, oui, c'est une charge. C'est forcément une charge parce que tu peux pas... Normalement, après la compète, je sais pas, tu te reposes.
Bah ouais.
Mais je ne le vivais pas du tout comme ça parce que j'arrivais à structurer mes journées et je ne ressentais pas forcément énormément de fatigue.
Ouais.
En plus, j'avais la chance d'être dans la structure aussi, ce qui m'aidait parce que je m'entraînais sur place. Mon auto-école, elle venait me chercher ici. J'avais les cours sur place. Donc, on a l'impression que ce n'est pas forcément usant. Et c'est au moment où il y a quelque chose qui casse, en fait, qu'on se rend compte que, ah oui, mais en fait, tout ça, ça m'a fatigué quand même.
Ouais, c'est fou quand même. Tu t'en es jamais rendu compte avant ta blessure au monde.
Non, il y a un moment où quand même, je me posais un petit peu je ne me posais pas vraiment des questions, mais comment dire ? J'étais toujours hyper euphorique à l'idée de faire des compètes et de faire des résultats. Et j'avais toujours mes objectifs clairement en tête. Mais il y avait moins la notion de plaisir.
D'accord.
C'était plus vraiment, j'avais mon objectif, c'est ce que je voulais, je travaillais pour. Mais je commençais à prendre un peu moins de plaisir à ce moment-là. Et je pense que c'est justement parce que je m'étais imposé un rythme en fait trop...
Ouais, de fou.
Ouais, et du coup, bah oui, c'est moins amusant, quoi.
Ouais.
Et donc là, j'en ai parlé quand même à mon coach, etc. Et je lui ai dit, ouais, là... À des moments, j'ai pas forcément envie, quoi, de m'entraîner, etc. Alors qu'avant, j'arrivais sur le tapis. Bah oui, ça peut arriver de pas trop avoir envie. Mais là,
bien
c'était
sûr.
Voilà, je prenais moins de plaisir. Et en fait, je m'en suis surtout rendu compte, du coup, quand je me suis blessée et qu'après mon opération, bah, pendant 5-6 mois, la lutte, ça m'avait pas manqué.
Ah ouais?
Ouais. Pendant 5-6 mois, ça m'avait pas manqué. Au bout d'un moment, oui. Mais avant, je faisais 2 semaines, quoi, et je voulais à tout prix remonter sur le tapis. Et là, je pense que j'étais arrivée peut-être à un niveau de saturation qui a fait que quand je me suis blessée, bah, déjà, j'étais hyper focus parce que tous les jours, j'étais chez le kiné, etc. J'étais en réathlé, en prépa physique et autres. Mais je ne ressentais pas le manque de la lutte. Mmh. Et c'est là que j'ai compris que, ah oui, peut-être que je me suis un peu trop poussée finalement.
Il y avait eu une saturation.
Mmh. C'est ça.
J'allais te demander justement comment on vit ça, de passer d'un tout à un rien, parce que du coup, t'étais au taquet sur tous les niveaux et ta blessure au genou a mis un coup d'arrêt. Mm. Plus de compète, je veux dire, là, le physique, c'est quand même ton instrument de travail.
Mm, mm, mm.
Comment tu l'as vécu?
Ça va. En fait, quand je me suis fait mal sur la compète directement, j'ai su déjà que bon, c'était une grosse douleur. En fait, j'ai déjà fait des compètes, je me fais mal, même avec une entorse, etc. J'arrive à continuer. Mm-hmm. Là, je me suis forcée à continuer la finale, mais déjà, on voit sur les vidéos que j'étais en pleurs, etc. Mais le lendemain, je suis rentrée en France en fauteuil, quoi. Donc, ouais. Je savais déjà
t'as
que...
T'as repris en plus d'ailleurs, j'ai vu les images. Oui, on ouais. voit que t'as le genou qui vrille complètement ouais, et tu reprends...
J'ai repris le match. Parce que je pouvais pas, encore une fois, ça, c'était vraiment dans ma tête et je me disais, voilà, je suis en finale des championnats du monde.
C'est fou.
Même si pourtant, je le voyais le score, hein, de base, je gagnais, je sais plus, mais elle avait 9 points d'écart, quoi. Un point de plus, le match, il était terminé. Mm. Mais je pouvais pas juste me dire, non, j'arrête là, en fait.
Okay.
Donc voilà, je fais ma finale et tout. Le lendemain, enfin, déjà le soir, je peux plus marcher. Le lendemain, je rentre en fauteuil. Et donc directement, je savais que, bah voilà, j'allais devoir me faire opérer, etc. Et j'ai directement su conditionner, en fait. J'ai réussi à me conditionner. Au début, j'ai pris peut-être 10 jours où j'ai complètement déconnecté. Et ensuite, bah, je me suis fait opérer. Donc voilà, je suis partie sur un mois et demi de béquilles. Et à partir de 2-3 semaines, bah, j'étais chez le kiné tous les jours. Et en fait, même quand on est blessé, c'est un rythme hyper intense parce qu'on a kiné 5 fois par semaine. Et ensuite, on doit rajouter des séances de prépa physique. Et même si on ne travaille pas le bas, bah, il faut essayer d'entretenir le haut. Donc j'avais quand même un rythme...
Été au repos, en fait.
Voilà, c'est ça. Et donc, je passais souvent à la salle de lutte, je voyais souvent les autres, etc. J'essayais de faire un peu d'analyse vidéo. J'essayais de grappiller, en fait, un peu sur ce que je pouvais. Mais c'est vrai que finalement, ça m'a fait une pause de lutte qui, je pense, m'a fait du bien. Donc, je l'ai plutôt bien vécu. Et je suis quelqu'un, en plus, d'hyper croyante. Et pour moi, rien n'arrive par hasard, en fait. Et à ce moment-là, je pense que j'avais juste besoin de... souffler un petit peu et repartir en fait de zéro quoi.
Est-ce que ta manière d'envisager ton sport a été différente à partir de ce moment-là?
Oui, elle a été différente à partir de ce moment-là parce que j'ai commencé à plus écouter mon corps en fait. Parce que je connaissais mon corps, je savais déjà quand même à des moments que ah, là je force peut-être un peu trop, etc. Mais encore une fois, j'étais dans mon truc et je me disais juste bon bah voilà, ça va aller et puis je vais aller faire un massage de récup. Mais en fait, c'est pas si simple. Et le fait d'avoir cette précocité, c'est super bien, mais ça fait qu'on j'ai commencé à muser entre guillemets tôt aussi quoi.
Ouais.
Donc c'est vrai que après ça j'ai essayé de beaucoup plus écouter mon corps, mais pas écouter ma tête, parce qu'à des moments, c'est compliqué aussi, juste on n'a pas envie ou autre. Là, c'était vraiment... quand j'avais des alertes, en fait, je les prenais en compte.
Ouais, voilà. Ce que tu faisais pas forcément avant.
Ouais, c'est ça. Donc, je les prenais en compte. C'était aussi hyper dur, parce que j'enchaîne beaucoup de réussites, en fait, sur des années et des années. Et à chaque fois qu'on m'envoyait sur une compète, je ramenais une médaille, que ce soit n'importe quel type de compétition. Et là, ça a été déjà une année où j'ai pas pu faire de compétition.
Ouais.
Alors que c'est quand même ce qui m'anime de base. Et le retour aussi fait peur. Je sais que j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à la technique sur laquelle je me suis fait mal, par exemple. Mm. Donc, à partir de ce moment-là aussi, j'ai commencé à avoir une prépa mentale.
Okay.
Parce que j'étais... je l'ai toujours été, mais de base, c'était simple. J'étais hyper exigeante avec moi-même, mais c'était plus simple parce que à chaque fois, j'avais... comme si j'avais les bonnes réponses qui me revenaient, en fait. À chaque fois,
j'avais j'étais... pas besoin de te remettre en question parce
voilà,
que ça marchait.
C'est ça. Ouais. Et à ce moment-là, je me sentais plus en fait dans ma lutte, je me posais tout le temps des questions, j'avais plus forcément confiance en ma lutte et c'est hyper compliqué d'arriver sur une compète en n'ayant pas confiance en sa lutte.
Ouais, le bulldozer s'est un peu plus transformé en tricycle quoi.
Voilà.
I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est ça, c'était parce que je me posais tellement de questions que je ne me posais pas avant. Normalement, je monte sur le tapis, même si avant je stresse, dès que l'arbitre siffle, je suis plus la même personne. Ouais. Mais là, je me posais beaucoup de questions. Et avant d'attaquer, est-ce que là, j'attaque ou pas? Mais en fait, j'ai déjà perdu 2 secondes. Donc, mon attaque, elle est en retard. Mm. Et c'est vrai que le retour, au début, ça a été compliqué. J'ai fait quelques compètes où ça s'est hyper mal passé, en fait. Jusqu'à 2020. Ouais, en fait, non, même pas. Parce que après, il y a eu le Covid.
Ouais, voilà.
Donc, pendant un bon moment, j'ai pas perfé. Et c'est à partir de 2021 que j'ai vraiment recommencé à faire des résultats. Mais finalement, 2018-2021, c'est... super long.
T'as eu 3 ans un peu d'errance, si je puis dire.
Oui, c'est ça.
il fallait que tu te retrouves, que tu te trouves finalement, parce qu'on peut presque dire qu'avant tu t'étais pas trouvée dans le sens où tu te posais pas de questions.
C'est ça, en fait. C'est comme si j'avais eu une difficulté supplémentaire dans le sens où, déjà, moi, j'ai dû apprendre à m'écouter, mais en plus, j'ai aussi dû apprendre à gérer toutes les notions que je connaissais pas avant. Le doute.
Ouais.
Le doute, j'étais pas sûre de gagner quand j'arrivais sur une compète, mais je doutais pas de mes capacités, en fait. Ça passe, ça casse. Mm. Mais je me disais pas, non, là, j'ai pas été bonne, par exemple. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, j'étais dans une... Franchement, j'ai été après, en 2019, surtout dans une spirale hyper négative où j'avais pas du tout confiance en ma lutte. Mmh. Et donc, quand je sortais d'un entraînement, j'étais déçue de mon entraînement parce que je voyais pas le positif. Ah, j'ai réussi ça ou autre chose. Mais non, c'était là, j'ai pas réussi ci, j'ai pas réussi ça, etc. Et c'est vraiment ma préparatrice mentale qui m'a aidée. J'ai dû me fixer des objectifs sur chaque entraînement. Et en fait, à chaque entraînement, justement, je devais mettre ce qui était ressorti de positif, parce que chose que je ne faisais plus du tout.
Ouais.
Et en fait, c'est comme si je devais du coup réapprendre à me connaître et à travailler avec moi-même, en fait.
Mmh. Est-ce que ça a été dur, déjà pour toi, effectivement, c'est ce que tu dis, et aussi pour ton entourage, parce que tu étais sur une pente ascendante depuis tes 12 ans, où tu faisais que gagner. Mmh. Tu t'es blessée. Du coup, il y a eu un coup d'arrêt, tu dis, pendant 3 ans, où ça a été compliqué, où du coup, cette ascension... elle a pris un coup. Mm. Comment t'as fait pour justement te restructurer ? Est-ce que ça a été compliqué aussi de sentir, peut-être, je ne sais pas, qu'il y avait une déception auprès de ton entourage ou...
Alors déjà, dans le côté familial, etc., franchement, ils ont toujours vraiment cru en moi à 1000%. C'est-à-dire que même moi, quand j'étais en pleine période de doute, il y avait zéro doute à côté. Et j'ai la chance aussi d'avoir un entraîneur qui croit vraiment énormément en moi et qui, même quand ça se passait mal, en fait... Et en plus, franchement, à des moments, j'étais pas facile sur l'entraînement parce que, quand on voit qu'on est tout le temps dans une spirale négative, etc., c'est compliqué d'arriver de bonne humeur, Donc, j'étais plus forcément la même personne. Mmh. Et lui aussi, pourtant, il a toujours cru en moi. Il a essayé d'adapter, justement, les choses à ma lutte. Et en fait, il voulait pas forcément tout changer, etc. Après, je sais que, forcément, du côté fédéral, il y a eu des moments de déception. Parce que ce qui ressort en premier lieu, c'est la perf. Mm. Et il n'y en avait plus. Donc oui, c'est décevant quand on voit une combat qui, de 2014 à 2018, rafle tout. Plein de médailles. Et ensuite, c'est creux, quoi. Mais je n'ai pas senti un manque de confiance en mes capacités, en fait. C'était plus vraiment des moments un peu de déception parce qu'on n'est pas passé loin ou c'est dommage, on la reconnaît pas forcément sur le tapis. Okay. Ça m'a fait mal des fois d'entendre ça.
C'est dur.
Ouais, franchement, ça m'a fait mal à des moments d'entendre ça parce que... il faut qu'on retrouve l'agressivité d'avant, la combat d'avant, etc. J'aimais pas, en fait, qu'on compare à avant parce que...
T'étais plus la même personne,
c'est
finalement.
Ça, je me forge et j'ai des épreuves qui se sont passées entre-temps et si j'ai changé, c'est parce que j'évolue, tout simplement. Ouais. Mais j'ai réussi à me reconstruire et je pense qu'en fait, c'est vraiment le plus important dans tout ça parce qu'au final, j'ai vachement évolué. Et l'année dernière, par exemple, je me suis fait opérer après les Jeux qui ne se sont pas très bien passés.
Ouais.
Je me suis fait opérer après, mais je suis revenue un mois des championnats du monde. J'avais qu'un mois de préparation et pourtant, j'ai fait une médaille.
Mm.
Donc en fait, je me prouve à moi-même que dans toutes les difficultés possibles, quand vraiment j'ai envie et que je me bats pour... Malgré tout ce qui se passe autour, je peux le faire, quoi. Mmh. Donc, je peux plus douter de mes capacités, en fait. Ce qui était le cas avant, je sais qu'aujourd'hui, je peux plus douter de mes capacités. J'ai encore beaucoup de travail et une grande marge de progression. Mais il faut que je sois consciente que, j'ai quand même un potentiel et avec le travail, etc., ça va.
C'est quoi,
ça peut que le faire.
C'est quoi ton état d'esprit, là, maintenant ?
Mon état d'esprit maintenant, c'est essayer quand même déjà de me préserver un peu plus, toujours. De me préserver un peu plus, d'être plus sélective. En fait, de me préparer de manière optimale pour Paris, tout simplement.
C'est le but ultime.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Je sais qu'il y a plein de compètes dans une année, mais il faut que je fasse du tri parce que le plus important, c'est telle échéance, et il faut préparer en fonction de ça, etc. Et c'est pas comme ça que je le voyais forcément avant. Donc, j'évolue par rapport à ça, mais l'objectif reste toujours le même et c'est Paris.
Est-ce que ton état d'esprit, maintenant, finalement, te procure plus de bonheur ? Dans le sens où est-ce que tu trouves que t'as... Est-ce que t'as... Tu considères que t'as vraiment trouvé ta place dans ta lutte maintenant et que t'as trouvé d'ailleurs ta lutte ?
Ce serait quand même compliqué de dire ça parce que... Ben, j'ai des moments où voilà, je me sens pas forcément au top, etc., sur le tapis, et j'ai des choses que je suis encore en train de construire dans ma lutte, mais qui du coup, bah, des fois, ça passe pas forcément parce que c'est en construction, en fait, et que j'ai du mal parce que je suis toujours hyper exigeante avec moi-même. Mais en fait, je sais que je travaille dans le bon sens, et c'est vraiment ce qui m'importe. Je sais que je travaille dans le bon sens et que je construis ma propre lutte que je vais pouvoir imposer à toutes mes adversaires. Et à partir du moment où j'aurai réussi à imposer ma lutte à toutes mes adversaires, et donc c'est elles qui seront pénalisées parce qu'elles devront s'adapter à ma lutte, bah, c'est là que j'aurai tout gagné.
C'est en cours.
C'est en cours, c'est ça.
Est-ce que, tu vois, pour revenir un peu à ce que tu disais aussi tout à l'heure, le fait d'être un peu isolée, parce qu'effectivement, tu disais depuis le début, tu es une des seules filles à pratiquer la lutte à haut niveau en France aujourd'hui. Est-ce que ça a été compliqué aussi pour toi, finalement, de te retrouver un peu la seule à vivre ça, ou au contraire, est-ce que le fait d'être dans un groupe quand même aussi avec les garçons, t'as pas ressenti trop cet isolement ?
J'ai pas ressenti forcément d'isolement parce que c'est vrai qu'on partait toujours en équipe, en fait, malgré le fait que bah on fait un sport individuel, etc. Il y avait toujours des filles dans les autres catés, etc. Et moi, je m'entends très très bien avec les autres filles de l'équipe. Mm-hmm. Et donc, on est tout le temps en train de toutes se pousser, en fait. Et je me suis jamais sentie isolée parce que du coup. Le fait qu'on lutte aussi tous ensemble dans la même salle, etc., il n'y a vraiment pas de... Enfin, je m'entends très bien avec les garçons de la lutte, on est tous tout le temps ensemble. Certes, en stage, on part entre filles, etc., mais sur les compètes, on se croise avec les Gréco, avec la Libre, et on est la grande famille de la lutte, quoi, on va dire. Et donc, je ne me suis jamais sentie réellement isolée. Et puis, j'ai eu la chance aussi de m'adapter. En fait, même quand j'étais, je ne sais pas, j'avais 16 ans et que j'étais avec les filles de l'équipe de 27-28 ans, bah, je m'entendais hyper bien avec elles. Et pareil, les autres, ils me prenaient un peu sous leur aile et tout, donc... Franchement, je me suis toujours sentie bien, bien entourée, même au niveau des autres athlètes autour de moi, en fait.
Ok, ouais, donc t'as jamais ressenti ça, en fait, finalement. Mais même le fait, tu vois, effectivement, on pourrait se dire que dans ta catégorie, t'as pas forcément de concurrence en France. Donc, pour pouvoir élever ton niveau, bah, il faut peut-être soit partir à l'étranger pour aller s'entraîner ailleurs avec d'autres personnes ou effectivement t'entraîner avec des garçons.
Oui, c'est vrai.
Dans ce sens-là aussi.
Ouais, c'était, bah, avant, c'était beaucoup plus le cas,
ouais.
Parce que maintenant, cette année, je suis en concurrence. Mais avant, c'était beaucoup plus le cas dans le sens où j'ai beaucoup recherché d'adversité masculine déjà, parce qu'on est un sport avec très peu de licenciés. Tout simplement, on est à peu près 20 000 licenciés en France, et il y a plus de garçons que de filles.
Ouais.
Donc, c'est compliqué de trouver toute l'adversité nécessaire, en fait, ici. Mais c'est vrai qu'après, on a des pays... Enfin, il y a beaucoup de regroupements européens, etc., qui ne sont pas forcément très loin, que ce soit en Allemagne ou autre, qui me permettaient de rencontrer de l'adversité féminine. Mm-hmm. Parce que malgré le fait que je m'entraînais beaucoup avec les garçons en France, bah, j'avais besoin de lutter avec des filles, la lutte est différente. Et on a toujours réussi à concilier ça pour que... j'ai l'adversité nécessaire. Mais c'est vrai que je m'entraînais aussi beaucoup avec mon entraîneur. Donc, je luttais avec lui, en fait. Et j'ai aussi pas mal de partenaires garçons, ce qui m'apporte, en fait, tellement de m'entraîner et avec des garçons et avec les filles, etc. Et c'est super.
Comment tu le vis, ça, toi, en termes de visibilité et d'image ? Parce que c'est vrai qu'effectivement, on le disait au début, bah, la lutte, c'est un sport qui n'est pas vraiment médiatisé, qui n'est pas spécialement populaire non plus. Ouais. T'es, on va dire, une des représentantes vraiment de la lutte aujourd'hui. T'as réussi, je trouve, à te faire ta place, mais même médiatiquement. C'est-à-dire qu'on t'identifie aussi maintenant en tant que Kumba, la lutteuse française. Est-ce que c'était une vraie volonté de ta part aussi de démocratiser ton sport, ou ça s'est fait un peu par hasard ?
C'était quand même important pour moi d'essayer de mettre la lutte en lumière et aussi, du coup, en particulier la lutte féminine, parce que c'est vrai qu'on est un sport pas hyper connu, malheureusement, et hyper médiatisé, alors que c'est un sport hyper complet et qui pourrait parler à beaucoup de monde, en fait. C'est juste le fait d'être pas connu, finalement, qui fait ça. Mais je sais que j'ai manqué quand même pas mal d'identification, en fait. J'avais du mal à m'identifier à des lutteuses françaises, ou on entendait parler des frères Guénaud parce qu'ils ont fait leur médaille olympique, etc. Et à ce moment-là, moi, c'est les personnes à qui je m'identifiais, mais j'avais besoin... Je sais que les personnes ont besoin d'identification et il n'y a pas beaucoup de filles qui pouvaient s'identifier à quelqu'un dans la lutte, en fait.
J'avais besoin d'une figure féminine aussi.
C'est ça, j'avais besoin d'une figure féminine. Après, j'avais beaucoup de personnes qui m'entouraient dans d'autres disciplines. Mais au niveau de la lutte, il n'y avait personne, en fait. Il n'y avait personne Il y avait des filles qui avaient fait des résultats, mais c'était pas médiatisé. Mm. Et donc là, moi, je sais que plein de fois, j'ai rencontré des filles, etc., qui me disaient que vraiment, elles voulaient faire comme moi, en fait. Et franchement, ça me touche parce que quelques années en avant, j'aurais peut-être pas forcément entendu ça. Et donc, je sais que le travail, entre guillemets, que j'essaye de faire en prenant part à des interviews, je sais pas trop comment en me montrant un peu plus et en expliquant comment ça fonctionne et comment je vis les choses, etc., bah, ça permet à plein de personnes de s'identifier et donc de connaître. Et tout ce que je veux, voilà, c'est partager et pouvoir inciter beaucoup de personnes à faire ce que je fais.
Le côté rôle modèle te fait pas peur ?
Non, ça me fait pas peur du tout. Après, je sais pas si c'est vraiment rôle modèle, parce que moi, par exemple, on m'a toujours posé cette question, c'est qui mon modèle dans le sport, etc. Ouais. Et en réalité, j'en ai pas. Voilà, j'ai des personnes de qui on s'inspire. Par exemple, Clarisse, je vais énormément m'inspirer d'elle, etc. Parce que c'est des personnes, franchement, incroyables. C'est des personnes incroyables et tu peux que trouver leur parcours, etc. magnifique. Mais moi, je veux créer ma propre carrière et je suis moi et voilà, j'avance et je fais mon chemin. Et en fait, je pense que toutes les personnes devraient avoir quelqu'un, voilà, à qui s'identifier et prendre un petit peu exemple, s'inspirer, etc. Mais en réalité, notre propre modèle, c'est nous-mêmes, quoi.
Tu le vois comment, là, ton chemin ? Justement, tu dis, voilà, moi, j'ai envie d'aussi inspirer, de faire mon propre chemin, d'être ma propre inspiration aussi, pour toi-même et pour les autres et les futures générations. Comment tu le vois ? Parce que t'as que 24 ans, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. T'es encore hyper jeune. On parlait de Paris 2024. C'est quoi tes objectifs, vraiment, tes priorités ?
Alors, ma priorité, déjà, de cette année, ce serait de me qualifier pour les Jeux, donc au mois de septembre sur les championnats du monde. Après, mon objectif ultime, c'est de faire championne olympique. Je me suis loupée à Tokyo, mais je compte vraiment, vraiment, vraiment sur ça pour Paris. Et ce serait incroyable avec toute ma famille autour, etc. Parce que c'est vrai que je laisse pas trop ma famille venir sur les compètes.
C'est vrai ?
Ouais.
Ça te stresse ?
Surtout ma mère, en fait. C'est ça me stresse un peu, ouais. Mais
pourquoi ?
Bah, je sais pas. J'ai jamais trop aimé. Elle est venue sur les championnats du monde à Paris. Bah, elle était super heureuse et tout. Enfin, même mes frères et sœurs, ils viennent. Je sais qu'ils regardent et tout. Mais ma mère, j'ai un peu du mal. Je préfère qu'ils regardent de loin, quoi. Mais là, sur Paris, au contraire, c'est vraiment quelque chose qui m'anime encore plus de me dire que voilà, je veux que ma famille soit là.
J'ai envie de les rendre
fiers. Et me voit accomplir mon objectif, en fait, pour lequel je me bats depuis que j'ai 12 ans, finalement. Mm. Et j'aimerais, du coup, ça, c'est vraiment ma construction au niveau sportif. Et puis après, j'aimerais... Bah, maintenant, je suis en études de psychologie, donc j'aimerais... obtenir ma licence déjà, puis ensuite je verrai, mais j'aimerais beaucoup pouvoir aider aussi les personnes sur au niveau et sur l'aspect psychologique, parce que je sais que moi ça m'a beaucoup aidé à un moment où c'était très 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 compliqué psychologiquement. Puis voilà, après franchement je fais mon petit parcours mais pour l'instant c'est le plus important pour moi, mais en tout cas l'objectif numéro un, c'est Paris.
T'as jamais remis en question la lutte ? Jamais ?
Si. Franchement, à un moment, j'ai beaucoup remis en question la lutte parce que, bah, en fait, j'avais du mal à trouver justement cette notion de plaisir et je me demandais ce que ça m'apportait. À un certain moment, j'en suis venue à me demander ce que ça m'apportait et c'était compliqué à gérer parce que bah, je me mettais moi-même encore cette forte pression pour revenir et en même temps, bah, forcément, à côté, on me mettait la pression pour que je revienne et que je perde. Combat, il faut être de retour, là. Mais à côté de ça, bah, je me suis fait opérer deux fois et du coup, psychologiquement, on prend un coup. Ou bien quand on prépare pendant 5 ans avec le Covid des Jeux Olympiques et puis au final, je fais un tour au jeu.
Ouais.
Donc à chaque fois, en fait, il y a des moments où forcément, on a envie de se dire oh, « j'en peux plus, j'en vois tout balader, et j'ai fait ça toute ma vie pour ça, etc. » Mais au final, après, c'est exactement le même raisonnement. J'ai fait ça toute ma vie, je sais de quoi je suis capable.
Je vais pas laisser tomber.
Voilà, c'est ça. Je suis partie de chez moi, j'avais 12 ans, je rentrais en 5e. Je connais surtout mes capacités. Les personnes qui étaient sur le podium à Tokyo, bah, en fait, la vice-championne, les trois, enfin, toutes les personnes qui étaient sur le podium, en fait, je les ai déjà battues.
Tu les as toutes battues, ouais.
Voilà, c'est ça.
Sachant ouais, qu'il y en a... C'est super rageant.
Ouais, c'est rageant, mais en même temps, en fait, ça dépend dans quel sens on veut le prendre. C'est hyper rageant parce que la Nigériane, elle a fait vice-championne olympique et je l'ai battue un mois avant.
Ouais.
Et pareil pour la troisième, mais en même temps, c'est hyper motivant parce que je sais que j'ai le niveau.
Mm.
Et donc, c'est pas juste un rêve, en fait, ma médaille olympique. C'est vraiment c'est un objectif qui est accessible, exactement. Donc, j'ai décidé de le prendre de manière hyper encourageante. Après, c'est vrai que bah, y a des moments où on est forcément plus dans le down, c'est compliqué, etc. Mais je sais que je pourrais pas aujourd'hui arrêter la lutte comme ça, en fait. Tout simplement. J'ai pas fini ce que je voulais. Et que ça se passe bien ou que ça se passe moins bien, etc. à Paris, je serais allée jusqu'au bout et j'aurais pu prouver tout ce que je voulais prouver, mais juste arrêter avant, en fait, ce serait une option de facilité pour moi.
Et le principal, déjà, c'est d'y croire.
C'est ça.
Si t'y crois pas, déjà, de base, t'y arriveras pas.
Exactement.
C'est déjà, on va dire, j'ai envie de dire 50% du chemin,
oui,
en vrai.
Oui, c'est sûr.
Mais c'est donc, sûr. On te le souhaite, en tout cas.
Merci beaucoup.
Et en quoi tu dirais que la lutte, c'est un beau sport? C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ton sport, vraiment à proprement parler. Et ça m'intéresse, moi, de savoir un peu, si on me demandait, OK, pourquoi il faut regarder la lutte? Ah, sincèrement, je serais emmerdée, je ne saurais pas quoi dire.
Ouais.
Toi, tu dirais quoi à quelqu'un qui te dit ça?
Déjà, la lutte, c'est un des sports les plus anciens du monde. Ça a tellement, ça a énormément évolué. Il y a beaucoup de dérivés de la lutte, en dehors même de la lutte olympique. Il y a plein de luttes traditionnelles, que ce soit la lutte sénégalaise, le gouren. Il y a beaucoup, beaucoup de luttes partout parce que ça fait partie de chacun, en fait, vraiment, la lutte. Certes, il y a l'aspect, compétition, etc., mais... Je sais pas, quand on est petit, qu'on se bagarre un peu, etc. Tout le monde fait de la lutte, vraiment. Et c'est un sport tellement complet. On doit tout travailler, je le ressens du coup à l'entraînement, mais c'est hyper complet. Franchement, il faut de tout pour faire de la lutte. Il faut l'aspect technique, l'aspect physique, l'aspect mental, etc. Chaque match est différent. Et même en travaillant une technique pendant 15 ans, j'aurai toujours des améliorations à faire dessus. En fait, pour moi, c'est super beau, vraiment.
C'est bien. Et c'est important de parler du sport aussi, quoi.
Oui.
Comme on le disait tout à l'heure, t'en es la principale ambassadrice.
Ouais.
Donc, je trouve que c'est important de pouvoir passer ces messages-là auprès du grand public qui ne s'intéresse pas forcément, malheureusement,
à ce
type de sport. Et d'autant plus la lutte féminine. Je trouve que c'est important de le dire. Parce que dans les sports de combat, souvent, on voit le côté masculin, et beaucoup moins le côté féminin, alors que c'est tout aussi impressionnant.
Ouais,
voire plus, même, j'ai envie de dire.
Ouais.
Non, mais c'est vrai.
Oui. C'est vrai. De toute façon, comptez sur moi. Parce qu'on n'a pas eu encore de championne olympique en lutte féminine. Ouais. Et je pense que c'est ce qui permettrait, en fait, de mettre ça énormément en lumière. Mais c'est vrai que, déjà, moi, par exemple, je m'entraîne beaucoup avec les garçons, etc. Parce que la lutte libre et la lutte féminine, en réalité, c'est la même chose. Et la lutte féminine n'a vraiment rien à envier à la lutte masculine, en fait, que ce soit la libre ou la gréco. Et je pense que c'est hyper important juste de s'intéresser. Après, forcément, ça peut plaire ou ne pas plaire, mais rien que le fait de voir et d'essayer de comprendre et d'analyser, on voit directement que c'est un sport hyper complet et complexe, finalement.
Pour revenir à ce qu'on disait aussi tout à l'heure et à l'aspect masculin, justement, on a l'impression, quand on t'écoute, que ce qui est bien ou le regard des autres, tu t'en fous un peu, en fait. Ce que les gens... pense de toi et tu vois et les réflexions du style non mais la lutte c'est pas pour les filles, c'est pas un sport féminin, tout ça, c'est le genre de truc finalement j'ai l'impression que t'as même pas envie d'en parler tellement c'est pas un sujet, en fait.
Non, c'est vrai, en fait, ça m'importe vraiment peu. Et après, c'est des commentaires qu'il y a de l'extérieur, en fait, de gens qui connaissent pas forcément, mais j'ai jamais ressenti ça au sein même de la discipline, en fait. Moi, j'ai jamais ressenti un lutteur libre qui négligeait, en fait, ce que je faisais parce que c'était de la lutte féminine ou autre. Donc vraiment, j'ai jamais vraiment ressenti la différence parce que je me suis toujours entraînée avec les garçons, parce que j'ai des garçons qui sont déjà préparés pour des compétitions avec moi, des partenaires étrangers, alors qu'ils se préparaient eux aussi pour des grosses échéances.
Ouais.
Donc c'est que forcément, je leur apporte quelque chose aussi. Donc finalement, les gens qui pensent autour que voilà, la lutte féminine, etc., c'est qu'ils ne sont pas renseignés. Et moi, je sais vraiment que c'est exactement la même chose. Que ce soit sur l'aspect physique, on doit soulever les mêmes charges. Que ce soit sur l'aspect technique, on apprend exactement les mêmes choses. Oui, après, par exemple, il y a des filles qui vont avoir une lutte plus souple. Parce que les filles sont peut-être un peu plus souples que les garçons, simplement. Mais c'est vrai que, je ne l'ai jamais ressenti. Et du coup, ce n'est pas quelque chose qui me pique parce que, voilà quoi. Même, je ne sais pas, moi, je suis malienne française. Et en allant au Mali, dès que je dis que je fais de la lutte, à la base, tout le monde est choqué. Parce qu'en plus, ils connaissent que la lutte sénégalaise, etc. Mais quand ils regardent, ils sont fans, quoi. Ils aiment trop. Et je pense qu'il faut juste découvrir et apprendre à connaître pour se rendre compte que c'est hyper intéressant et il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons.
Est-ce que ça t'a donné envie aussi de montrer que tu fais un sport dit encore une fois, des milliards de guillemets masculins, mais que ça t'empêche pas d'être une femme, d'être féminine, de kiffer la mode. Je crois que tu kiffes la mode.
Exactement.
Tu vois, d'avoir... tu vois, c'est pas parce qu'effectivement, t'as ton... je sais pas comment on appelle d'ailleurs votre...
maillot.
Le maillot, ouais. Voilà. C'est pas parce que t'as ton maillot en compétition qu'à côté, enfin voilà, forcément, les filles qui font des sports masculins... se négligent. Et quand bien même, elles auraient le droit, tu vois. Ouais, c'est tout vrai. À fait... Ouais, elles font ce qu'elles veulent.
Exactement. Mais... C'est vrai qu'on m'a toujours parlé un peu de la question de féminité, etc. Comment dire ? En fait, moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la mode. J'aime bien le maquillage. J'aime bien les chaussures, etc. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, forcément, on va voir... un contraste, en fait. Par exemple, on va sur mon Instagram, il y a des vidéos de lutte, comme il y a des photos de moi maquillée, coiffée, etc. Mais en fait, c'est la réalité. Enfin, les personnes que ça choque, je ne peux pas comprendre, parce que c'est la réalité. Et quand bien même une fille n'aime pas se maquiller ou est moins féminine, guillemets, c'est pas forcément dans la lutte. Enfin, c'est dans la vie de tous les jours, quoi. Donc,
ça t'énerve, ça, que les gens fassent l'amalgame?
En fait, il y a des choses, malheureusement, on prend l'habitude un peu. Et justement, moi, je sais que je prouve, en fait, moi-même, justement, que si j'ai toujours été quelqu'un de féminine, entre guillemets, c'est pas parce que je fais de la lutte que je vais devenir hyper masculine, encore une fois, entre guillemets.
On se comprend. On entend.
Donc, non, en fait, mon sport, déjà, ne définit pas ma personnalité. Et certes, je fais un sport qui, de base, était considéré comme un sport masculin, parce que c'est vrai qu'en plus, nous, la lutte féminine, c'est arrivé hyper tard aux Jeux Olympiques.
Ouais, c'est ça.
Mais au contraire, on bouscule les choses et on prouve que des filles sont capables de performer. Et j'ai pu mettre la lutte en lumière en France aussi, de par mes résultats.
Absolument.
Donc, c'est plus en fait une fierté de pouvoir un peu bousculer les choses.
Finalement, le mot d'ordre, c'est plutôt authenticité, quoi.
C'est ça, exactement. Authenticité, comme dans tout, en fait. Je suis vraiment comme ça. Et en fait, j'ai rien à prouver aux gens. Vraiment, j'ai rien à prouver. Et au contraire, quand je pense qu'il faut simplement s'intéresser pour se rendre compte des choses tout seul, quoi. Et si on veut pas s'intéresser, tant pis pour les gens, mais ne pas me dire à moi que la lutte, il faut être un homme et il faut du coup ne pas prendre soin de soi, etc., parce que ça n'a aucun rapport.
Est-ce que j'ai envie de dire, je boucle un peu une boucle, mais est-ce que ta famille aussi, elle t'aide vachement à rester authentique comme ça, à rester tout le temps les pieds sur terre?
Oui, je pense. Après, c'est vrai que je pense que c'est aussi mon trait de caractère. Enfin, moi, je suis quelqu'un, je ne prendrai jamais la grosse tête, etc. Parce que je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais comment ça a été dur aussi d'en arriver là et que même si on arrive très haut, on peut vite redescendre. Je l'ai vécu aussi. Et je fais de la lutte. C'est une partie très, très, très importante de ma vie, mais ça ne définit pas ma personne.
Ouais.
Donc, c'est ce qui me permet de toujours rester moi-même. Mes parents, ils sont complètement d'accord avec moi. Tout le monde autour de moi est d'accord avec moi. Je vivais encore jusqu'à l'année dernière avec mon petit frère et ma petite sœur.
Okay.
Donc, je suis vachement famille aussi. Et c'est pas comme si je restais tout le temps dans le cercle sportif, etc. Je vois aussi beaucoup l'extérieur, etc. Ce qui fait que j'ai une vie, en fait, comme tout le monde, tout simplement. Malgré beaucoup de charges d'entraînement, beaucoup d'autres choses, etc. J'ai une vie comme tout le monde et je suis comme tout le monde.
Contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, où justement tu étais dans cette charge mentale hyper intense, est-ce que tu as l'impression maintenant d'avoir trouvé un équilibre ?
Oui, vraiment. J'ai vraiment trouvé un équilibre. Quand je me suis fait opérer en 2018, il a fallu que je parte en fait de l'INSEP.
Ouais.
Début 2019, je suis partie et j'ai pris un appart, etc. J'ai fait ce choix-là parce que justement le fait de toujours rester dans cette bulle hyper sportive, etc., moi ça commençait à me peser. Et c'est à partir. En fait, mon déclic de toute façon, c'est vraiment venu à partir de cette opération-là. Et. J'ai clairement trouvé mon équilibre aujourd'hui et en fait, on est tellement serein en fait à ce moment-là parce que c'est vrai qu'à un moment, au début, je ne m'en rendais pas compte, donc c'était facile. Mais c'est vrai qu'à un moment, ça a été compliqué et il a fallu du coup que je me cherche un peu et que justement, je trouve cet équilibre. Et aujourd'hui, je vois complètement la différence et je sais à quel point c'est important.
C'est un long chemin.
C'est un long chemin. Franchement, c'est un long chemin, mais finalement, j'ai fait beaucoup de chemin en étant quand même assez jeune encore.
C'est clair.
Et donc, je me dis que tout ce qui s'est passé, vraiment, tout ça, pour moi, c'est une chance. C'est une chance et je le prends plus comme des leçons de vie, en fait. Et aujourd'hui, j'ai 24 ans. Dans 2 ans, il y a les Jeux Olympiques. Et avec toute l'expérience que j'ai, justement, je peux ne pas me permettre de refaire les mêmes erreurs ou bien justement progresser sur tel point, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'analyse, beaucoup de remise en question, beaucoup de fierté. Et franchement, c'est hyper
top, en fait, finalement, d'avoir vécu tout ça, même le négatif qui s'est passé avant, parce que ça fait de moi qui je suis aujourd'hui.
Est-ce que tu as eu l'impression, ou est-ce que tu as toujours l'impression de devoir lutter dans la vie ?
Oui, je pense en fait que la vie, c'est vraiment de la lutte en permanence, en fait, parce que dans la vie, il y a toujours des choses qui se passent, tout simplement, et que ce soit positif ou négatif, il faut toujours, en fait, un peu se battre pour réussir, se battre pour se relever, se battre pour apprendre, se battre pour découvrir. Et en fait, c'est vraiment toujours une bataille, mais une belle bataille, finalement, donc... Je lutte.
Mais avec le sourire, toujours.
Toujours avec le sourire, toujours.
Et dernière question, le podcast s'appelle Championne du Monde. Tu l'es déjà, donc pour le coup, voilà. Si tu devais donner ta définition de ce qu'est une championne, qu'est-ce que tu dirais ?
Alors pour moi, la définition d'une championne, c'est très vaste, mais c'est hyper simple en fait. C'est une femme qui déjà s'assume, franchement, qui s'assume, qui n'écoute pas tout ce qu'on peut dire autour, parce que bon, voilà, c'est quand même un peu compliqué encore aujourd'hui, des fois, d'être une femme, mais qui se bat pour ce qu'elle veut, en fait, et qui va coûte que coûte se battre pour son objectif et faire en sorte d'y arriver, peu importe ce qui se passe autour d'elle.
Super. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Kumba.
Merci beaucoup à
pour
toi.
Pour ce moment ensemble. C'était super. Et comme je le dis souvent, mais n'hésitez pas à aller... les gens qui nous écoutent, à aller suivre Kumba, à regarder la lutte, à comprendre aussi, parce que c'est en regardant, en comprenant qu'on a envie aussi de plus en plus de suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la suivre. Et c'est un très beau sport qui mérite encore plus d'audience et encore plus d'intérêt. Donc voilà, ce serait vraiment moi le message que j'ai envie de passer à la fin.
Exactement.
Bah écoute, merci beaucoup Kumba, je te souhaite une belle préparation pour Paris 2024.
Merci beaucoup.
Je suivrai de près tes résultats d'ici là. Ça arrive vite hein, au final, ouais, un an et demi. Ouais. Hein.
Ça va arriver très vite parce que les qualifs, nous, c'est en septembre.
Ah ouais, donc dans 6 mois quoi, quasiment.
Ouais, ça arrive très vite.
Et bah écoute, bon courage pour la suite, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et je te dis à très bientôt.
À bientôt.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.